Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. 30e jour de blocage budgétaire aux États-Unis. Le shutdown le plus long de l'histoire du pays devrait d'ailleurs encore durer plusieurs jours. Les annonces de Donald Trump hier sont jugées inacceptables par l'opposition. Notre correspondant Grégory Philippe est avec nous. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a tranché. Félix Tshisekedi est officiellement le président du pays. Le recours de son opposant Martin Fayoulou est rejeté. Les explications d'Alexis Fouchard. En France, le 10e acte des Gilets jaunes a une nouvelle fois mobilisé 84 000 personnes hier. Un cortège calme, mais dont certains membres affichent un discours anti-média qui complexifie parfois le travail des journalistes sur le terrain. Reportage de Cécile de Kervas-Doué au cœur du cortège parisien. Et l'avenir de Carlos Ghosn, toujours en suspens. Le PDG de Renault pourrait bien être débarqué. Maxime Deps nous fera le point sur ses potentiels successeurs. La crise budgétaire continue aux États-Unis. Le shutdown en est ce matin à son 30e jour. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour.
Donald Trump a promis hier une annonce sérieuse pour débloquer la situation et ça n'a pas été le cas.
Non, l'allocution du président a duré une douzaine de minutes depuis la Maison-Blanche. Et qu'a proposé Donald Trump? Eh bien, toujours ce mur à la frontière mexicaine, ce mur à 5,7 milliards de dollars et que les démocrates ne veulent pas financer. Alors il pourrait s'agir d'une barrière métallique et pas forcément d'un mur en béton, a redit Trump. Mais le président veut cette séparation pour, dit-il, mettre un terme à la crise humanitaire et sécuritaire qui se joue en ce moment à la frontière sud. Donc le projet de mur est maintenu. En revanche, Donald Trump propose deux concessions. La première concerne les Dreamers, vous savez, ces jeunes migrants arrivés illégalement sur le sol américain avec leurs parents, prolongation de leur statut de 3 années. Ils sont environ 700 000 dans le pays. Et puis, même chose, 3 ans de sursis pour les étrangers qui bénéficient du statut de TPS, statut de protection temporaire. Environ 300 000 personnes, des Haïtiens, des Vénézuéliens, des Salvadoriens, qui auraient la garantie de pouvoir rester encore au moins 3 ans aux États-Unis.
Alors, ce sont des annonces, Grégory, qui n'ont pas convaincu les démocrates?
Non, et d'ailleurs, la présidente de la Chambre des représentants l'a dit dans un communiqué paru quelques minutes seulement avant le discours du président. L'opposition, évidemment, ne veut pas de ce mur, et maintenant qu'elle est majoritaire à la Chambre des représentants, elle n'a aucune raison de céder. Le compromis proposé par Trump n'a aucune chance d'être accepté, et donc le shutdown continue, ça fera un mois mardi que les administrations sont paralysées et ça commence à devenir évidemment très compliqué pour les 800 000 fonctionnaires fédéraux qui sont au chômage technique ou bien qui travaillent sans être payés depuis le 22 décembre.
Les précisions à Washington de Grégory Phillips. Félix Tshisekedi est officiellement le président de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a validé son élection cette nuit et donc rejeté le recours de son opposant Martin Fayoulou. Anthony Fouchard.
C'est le Congo qui a gagné, ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Voilà ce qu'a proclamé Félix Tshisekedi après l'annonce des résultats. Le nouveau président, confirmé par la Cour constitutionnelle, espère que le Congo de demain ne sera pas celui de la division et de la haine. Je le cite. Rien n'est moins sûr, car sitôt les requêtes déboutées, Martin Fayoulou a publié un communiqué dans lequel il dit se reconnaître comme le seul président légitimement élu du Congo. Il appelle les habitants à descendre dans les rues un peu partout dans le pays pour revendiquer cette victoire. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict vers 1h du matin. Les juges ont estimé que la demande de recomptage des voix était irrecevable et non fondée. Martin Fayoulou n'aurait pas amené de preuves suffisantes pour l'étayer. La Cour a également choisi d'ignorer les révélations publiées dans la presse internationale ces derniers jours. Des chiffres qui prouvent clairement que Martin Fayoulou est bien le réel vainqueur de ces élections. Un constat que partagent aussi les chefs d'État de l'Union africaine qui avaient demandé au Congo de suspendre la proclamation des résultats définitif en émettant de sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés. Ils avaient annoncé qu'ils se rendraient lundi à Kinshasa. Joseph Kabila a, semble-t-il, décidé de les prendre de court.
Anthony Fouchard, autre opposition en difficulté, c'est en Hongrie. Les manifestations pour dénoncer la politique de Viktor Orban hier n'ont pas été un grand succès populaire. Seulement 2000 personnes contre 15 000 avant les fêtes de fin d'année. Le reportage de Louise Baudet.
Du pont des chênes qui traverse le Danube pour rejoindre le lieu du rassemblement, on en perçoit l'écho amplifié par les eaux. Au pied du château et des bureaux gouvernementaux, moins de 2000 personnes. Ce n'est pas l'affluence des débuts d'Orban au pouvoir, mais on est ici motivé pour défendre ses droits. Sur scène, la jeune lycéenne Blanka Neuj, nouvelle cible des affidés du régime, harangue la foule. Combien de temps allons-nous encore supporter de devenir plus pauvres alors qu'eux s'enrichissent ? Suit le rappeur Noir, très populaire dans la jeunesse libérale.
Luttons pour nos droits, des tziganes, des juifs, des migrants.
Sur l'écran géant, une carte de la Hongrie. Aujourd'hui, c'est en province que ça se passe. Les noms des villes mobilisées sont égrenés. Melinda, chef d'entreprise quadragénaire, est venue en soutien au syndicat. Elle n'est pas déçue par la mobilisation à Budapest. Non, ce n'est pas une déception, parce qu'aujourd'hui c'était dans tout le pays. Ici, on se mobilise en soutien, ce n'est pas une manifestation pour Budapest. Prochain rendez-vous dans la capitale le 11 février. D'ici là, les syndicats encouragent les débrayages et espèrent lutter contre la lassitude après plus d'un mois de mobilisation.
Le reportage à Budapest en Hongrie de Louise Baudet. Le dixième acte du mouvement des Gilets jaunes a une nouvelle fois mobilisé plusieurs milliers de personnes hier en France. 84 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 10 000 rien qu'à Toulouse, 7 000 à Paris. Un cortège calme mais qui renferme en son sein quelques opposants farouches aux médias et qui rendent le traitement de cette information parfois compliqué pour nous journalistes. Les agressions de certains de nos confrères se multiplient de semaine en semaine et les rédactions doivent protéger leurs journalistes sur le terrain, des casques, des masques et comme ce fut le cas pour vous hier, Cécile de Kervas-Doué, un garde du corps, une situation quasi inédite en France pour un journaliste.
Vous faites partie des médias dominants, donc j'ai pas envie de vous écouter ni de vous parler. Non, c'est mort.
Mensonge d'État, c'est la pancarte brandie par ce jeune gilet jaune qui refuse mon micro. S'ensuit une discussion sur ce qu'est ou non un média dominant, et très vite les mots sont lâchés. Ce sont les médias à succès, comme BFM TV, CNews ou France Inter. Beaucoup n'ont pas conscience de l'agent de sécurité qui m'accompagne. Et quand je le leur en fais part...
On montre qu'on perd confiance en vous, quoi. Ce qu'on reproche aux médias, en fait, c'est de montrer que le petit groupuscule de casseurs chez les Gilets jaunes, mais ils sont jamais en train de filmer les CRS et les violences policières, quoi. Comme l'a dit Coluche, hein, on peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent.
Dans le cortège, la plupart des manifestants me parlent sans problème. Même si tous, tout au long du parcours, me répètent la même rengaine anti-média. Certains confient qu'ils ne croient pas que les journalistes soient inquiétés physiquement. D'autres, qu'ils le sont, mais du fait des forces de l'ordre. Et la majorité, sans justifier ces violences, tente surtout de les expliquer. Comme Christophe, mécanicien à Nanterre.
Je pense qu'il y a certains médias qui doivent avoir des consignes, c'est pas possible. Et quand je dis certains médias, je vise plus particulièrement BFM.
Monsieur Macron est une pièce placée par les médias. Je veux dire, comment quelqu'un en 6 mois peut faire une campagne qui est susceptible de balayer des partis qui sont là depuis des années ? Pour moi, c'est du lobbyisme. Chaque semaine, en fait, certains médias se permettent de détourner la vérité. Donc, ça rajoute une couche à une certaine colère qui fait qu'à un moment, on n'arrive plus à faire la part des choses et à se dire, puisqu'ils nous prennent tous pour des cons, bah soyons cons, voilà.
Mais moi, j'irai pas les taper pour autant, très sincèrement.
Et de conclure, il faudrait maintenant une vraie discussion nationale sur l'indépendance des médias, et notamment ceux détenus par des fortunes privées.
Le reportage à Paris de Cécile de Kervas-Doué. Les Gilets jaunes qui demandent également un retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, une option rejetée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le JDD ce matin. L'objectif n'est pas d'augmenter les impôts pour les uns ou les autres. Le ministre qui prévoit l'étude d'une taxe sur les géants du numérique d'ici fin février, elle pourrait rapporter 500 millions d'euros à l'État. Bruno Le Maire qui annonce également dans cette interview ne pas avoir lâché Carlos Ghosn. En attendant, il pourrait bien y avoir un conseil d'administration chez Renault pour sceller son départ. Alors, qui pour le remplacer ? Les pistes sont nombreuses, Maxime Deps.
Il y a d'abord ce nom qui s'étale et circule partout, celui du favori Jean-Dominique Senard, l'actuel patron de Michelin qui a plus d'un atout à faire valoir. Grand industriel, il connaît l'automobile, des années qu'il est sur le circuit et surtout, son agenda est bientôt vide. Son mandat à la tête de Michelin s'achève officiellement en mai prochain. En embuscade, deuxième sur la grille, Didier Leroy, numéro 2 actuel de Toyota, il a l'avantage de déjà traiter avec des Japonais et de connaître la maison. Chez les syndicats, on se souvient d'ailleurs d'un fichage de salariés à l'usine de Renault du Mans il y a 20 ans. Il était alors l'un des cadres du site. Troisième sur la ligne et plus cocasse, apparaît aussi le nom de Patrick Pellata, ancien numéro 2, forcé à quitter Renault il y a 8 ans après la fausse affaire d'espionnage qui avait à l'époque ébranlé le constructeur. L'Elysée lui a récemment confié une mission sur les véhicules autonomes, preuve qu'il est toujours un peu dans la course. Une course à laquelle pourrait se mêler aussi Thierry Bolloré, lequel assure l'intérim depuis 2 mois que l'affaire a éclaté.
Maxime Deps, la météo de ce dimanche avec de la neige attendue sur le nord-est du pays à partir de 300 mètres, mais aussi sur le massif central et les Pyrénées. Sur le reste, c'est un dimanche couvert du sud-ouest au nord-est.